Le semeur est sorti. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend. Oui, chaque jour, Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Oui, Dieu sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous éclairer. Oui, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte. Bienvenue à Michel Bertrand, pasteur, c'est lui qui nous donnera le message aujourd'hui. Bienvenue à nos amis malgaches pour ce temps de culte. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à l'issue de ce culte pour le repas paroissial, un repas malgache. Je salue également un groupe de pasteurs et de ministres spécialisés qui viennent de Berlin, de Brandebourg. Ils effectuent actuellement un voyage de découverte sur le thème de l'interreligieux, de la pratique que nous avons en France de l'interreligieux. Vous pourrez aussi les rencontrer lors du repas paroissial puisqu'ils seront présents. Pendant ce culte, j'ajoute qu'aura lieu la reconnaissance du ministère, du conseil de l'entraide. Nous voici donc réunis dans une belle diversité de langues, de cultures, de peuples pour écouter la parole et rendre grâce à notre Dieu. Alors je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, permets que nous demeurions en toi. Oui, que nous demeurions fidèles à ta parole pour nourrir notre foi, présents à ton amour pour garder notre espérance, attentif à ta lumière pour guider nos choix. Seigneur, sois béni pour ta fidèle présence en nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel avec le premier spontané que vous trouverez dans le psautier français. Nous louons l'Éternel. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui vis en nous donnant la vie, toi qui parles en nous donnant la parole. Loué sois-tu, Seigneur, toi par qui nous sommes ce que nous ne serions pas par nous-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur, toi pour qui nous sommes ce que nous n'avons pas été pour nous-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur, toi en qui nous ne sommes pas ce que nous sommes en nous-mêmes. Comme l'année nouvelle qui rompt avec l'année qui s'achève fait que nous rompions de même avec tout ce qui nous éloigne de nous en nous éloignant de toi. Toi qui nous aimes une fois pour toutes, fais que de même, par ta grâce, nous vivions une fois pour toutes le temps qu'il nous faut et que tu nous accordes pour rompre avec la mort comme avec notre passé. Face à l'avenir, garde-nous, Seigneur, garde-nous d'en faire une prolongation de notre passé. Fais-nous la grâce de l'aborder sans que nous y soyons condamnés. Loué sois-tu, Seigneur, car nous n'avons d'avenir que par ta grâce, celle que tu nous fais aujourd'hui et qu'en Christ tu nous accordes et nous renouvelles de jour en jour, année après année et une fois pour toutes, d'éternité en éternité. Je vous invite à poursuivre cette louange avec le psaume 65b dans le psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 5, le psaume 65b. Nous écoutons la volonté de Dieu telle qu'elle est formulée par le prophète Michée. On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ô notre Dieu, parmi les idoles qui encombrent nos vies, il y a celle que tu as déjà brûlée. Parmi les fardeaux qui chargent nos cœurs, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui nous entravent, il y a celles que tu as déjà brisées. Si nous pouvons aller vers toi, c'est que ta force est venue habiter notre faiblesse. Alors nous t'en prions. Des idoles encore aimées que nous connaissons trop, délivre-nous. Des fardeaux inutiles qui nous attardent loin de toi, délivre-nous. Des chaînes accablantes que nous ne pouvons briser, délivre-nous. Au psaume 85, nous lisons « Son salut est proche de ceux qui le craignent et sa gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui. » Et ses pas traceront le chemin. Oui, frères et sœurs, le salut de Dieu est proche. Amour, vérité, justice et paix se rencontrent en Jésus-Christ. Par son amour, il nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Nous confessons maintenant notre foi avec Moïse qui disait « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » Avec David « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Avec Ésaïe mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Avec Jean-Baptiste, il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Avec la Samaritaine, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? Avec le centurion romain, assurément cet homme était un fils de Dieu. Avec l'apôtre Paul, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Nous lisons ce matin dans la Bible trois textes. D'abord, au psaume 65, les versets 10 à 14. Ô Dieu, tu as visité la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes. Tu mets la terre en état. Tu irrigues ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle, les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse, les collines s'entourent de cris de joie, les prés se parent de troupeaux, le fond des vallées se couvre de blé, les clameurs de joie et les chants retentissent. Et puis quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et le troisième texte, sur lequel portera la prédication, se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 20. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse, qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est ainsi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé et elles n'ont pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et montant et se développant, ils donnaient du fruit et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme, pour que tout en regardant, ils ne voient pas et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit pardonné. » Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et des autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Ta parole est la vérité de nos vies. Donne-nous de vivre cette vérité. Je vous invite à chanter au cantique 192, les strophes 1 à 5, « Au Seigneur bénis la parole ». Cantique 192, strophes 1 à 5.
Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Qu'elle Thank you.
Notre Dieu et notre Père, nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Nous poursuivons tant de quêtes. Et ce matin encore, tu viens à notre rencontre pour nous faire entendre ta parole. Fais que les écritures de la Bible que nous avons relues ne restent pas lettres mortes. Envoie sur nous ton esprit pour qu'il nous livre ta parole vive et qu'en tournant les pages du livre, nous puissions ouvrir une page nouvelle dans nos vies. Que livrés à l'évangile de ta grâce, nos existences soient transformées et portées par le désir de le transmettre. Qu'il soit vraiment pour nous la bonne nouvelle qui libère, la nourriture de nos jours, la promesse sur nos chemins. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus évidentes à recevoir. Ainsi en est-il de cette parabole du semeur que certains d'entre vous connaissent sans doute par cœur. Cette parabole si claire en apparence qui va pourtant susciter la perplexité des auditeurs de Jésus et notamment de ses disciples. Au point que dès qu'il se retrouve à l'écart avec le maître, il lui demande des explications. Alors j'ai été questionné par leur questionnement et j'ai cherché à comprendre pourquoi ils étaient ainsi dans l'embarras. Quels étaient les motifs de cette difficulté? Et j'en ai trouvé trois aspects de cette parabole susceptibles de les surprendre, voire de les déconcerter. Au point d'ailleurs de rendre les propos de Jésus, en tout cas, sinon compliqués à comprendre, en tout cas difficiles à entendre et plus encore à accepter. Trois éléments de cette parabole qui ont certainement pu bousculer les représentations de Dieu qu'ils s'en faisaient, comme ils peuvent aussi bousculer les nôtres. Celles qui ont cours dans notre société, dans nos églises, et peut-être plus encore dans nos têtes. Oui, ce semeur peut semer le désordre dans nos conformismes théologiques, dans nos habitudes ecclésiales ou dans nos résignations citoyennes. Pourquoi ? Parce que de trois manières au moins, ils remettent au centre de notre histoire et de nos vies une dimension qui semble s'en être aujourd'hui effacée, la dimension de l'espérance. Et dans ce texte, le premier visage de l'espérance, eh bien, c'est celui du semeur lui-même. Un visage surprenant pour les auditeurs de Jésus, parce qu'il ruine l'image qu'ils se faisaient, eux, du Messie. En effet, ce n'est pas sous les traits d'un semeur qu'ils l'imaginaient. Ils n'attendaient pas du Messie qu'il ouvre une histoire nouvelle, mais qu'il offre au monde un monde tout fait, achevé, livré, clé en main, dans lequel il n'y aurait plus qu'à s'installer et plus rien à construire. Il rêvait d'accomplissement et non de commencement. Ce n'était donc pas un semeur qu'il se préparait à accueillir, c'était un moissonneur, un messie des récoltes qui établirait enfin son royaume de paix et qui enfin mettrait les siens au repos. Et nous pouvons comprendre une telle aspiration. En effet, lequel d'entre nous n'a jamais éprouvé ce besoin de souffler un peu quand le poids des responsabilités ou des engagements nous écrase? Et je pense aux militants de l'entraide. Qui n'a été un jour tenté de baisser les bras quand la misère du monde est trop lourde à porter? Ou tout simplement, certains jours, quand la joie et le bonheur d'exister semblent se dérober sous nos pas? N'est-ce pas d'ailleurs à ce désir de lâcher prise que répondent, du reste avec un certain succès, bien des spiritualités contemporaines, y compris certaines qui se veulent chrétiennes? Ces religiosités où s'exprime plus ou moins confusément une envie de quiétude et d'évasion, hors des turbulences de la vie, à l'écart d'une histoire souvent tragique et douloureuse. Alors on recherche des moments et des temps permettant d'oublier, voire de fuir ce monde perdu. On aspire plus à changer de monde qu'à changer le monde, quand on ne spécule pas sur sa fin. Sauf que justement, l'image du semeur n'évoque pas la fin du monde, ni la fin d'un monde, mais elle nous parle encore et toujours des fins et des soifs de ce monde, celles des plus fragiles et des plus vulnérables de nos sociétés auxquelles vous vous efforcez de répondre dans le cadre de l'entraide. Et la reconnaissance de votre ministère au cœur de ce culte vient précisément nous rappeler la tâche prioritaire des disciples d'un Messie semeur. Une tâche qui consiste à dire à tous les déboutés du droit de vivre que rien n'est jamais fini, à poser au cœur de leurs angoisses des mots et des gestes qui témoignent encore et toujours de la promesse des commencements. N'en déplaise, au passage, au tenant d'une laïcité inquiète et soupçonneuse, qui voudrait aussi, à leur manière, mettre parfois les croyants en congé de l'histoire, les empêchant ainsi de mettre leur grain d'espérance là où ça dérange. Car bien sûr, ils sont gênants, ces semeurs, qui ne se résignent pas devant les fatalités, et qui veulent chaque jour écrire encore une histoire nouvelle, une page nouvelle. Ils sont fatigants, ces semeurs, ces prophètes, ces poètes qui croient que le monde est toujours à construire. Vous le savez, il y a 50 ans déjà, nuitamment sur les murs de Paris, des mains invisibles écrivaient « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Et oui, on comprend aussi pourquoi cette image du semeur qui commence peut interroger aussi nos vies ecclésiales. Car ce semeur qui sort pour semer nous invite, nous aussi, chacune et chacun, à sortir à son tour. Sortir, j'ai envie de dire, des églises greniers qui ne rassemblent que des semblables pour aller à la rencontre de l'autre différent, comme veulent le faire les frères et sœurs venus d'Allemagne qui s'intéressent à l'interreligieux, aller vers l'autre différent. Sortir de l'entre-soi confiné d'héritiers suffisants quand ils s'accrochent à un passé glorieux qui leur tiendrait lieu de présent. Sortir de nos pudeurs et de nos peurs pour nous tourner avec confiance vers demain. Car tel est bien le message étonnant, le premier message étonnant de cette parabole du semeur. Chers amis, frères et sœurs, c'est encore le temps des ensemencements. C'est encore le temps des commencements. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire. Ce n'est donc pas la fin de l'Église. Ce n'est donc pas la fin du protestantisme. Mais c'est encore et toujours le temps de l'espérance. Pour autant, il ne s'agit pas de succomber aux illusions de la méthode Coué. Nous savons bien que si tout peut commencer avec ce semeur qui sort pour semer, son activité n'est pas de tout repos. Celui qui sème n'est jamais sûr de recevoir les fruits de son travail. Son labeur est ingrat, pénible, plein d'aléas. La graine est fragile. Tous les terrains ne sont pas fertiles. Le climat n'est pas toujours clément. Alors, ne nous y trompons pas. À travers cette parabole, Jésus parle aussi à ses disciples, et ils ont sûrement du mal à l'entendre. Jésus parle aussi à ses disciples d'incertitude, de dispersion, et même de perte et de mort. Lui-même est un semeur qui meurt avant d'avoir vu la moisson. C'est là, on le comprend, le deuxième motif d'étonnement pour celles et ceux qui considéraient que le Messie de Dieu et sa parole devaient s'imposer d'une manière évidente à toutes et à tous. Et du coup, cela aussi, bien sûr, peut nous déranger, nous-mêmes, nous surprendre. Que Jésus nous dise que Dieu se révèle à nous, qu'il vient vers nous dans la fragilité et la faiblesse d'une graine toujours exposée. Car nous le savons bien, accepter d'être simplement un semeur n'est ni confortable ni gratifiant. Je dois dire que nous le mesurons même tous les jours, face aux malentendus, aux difficultés, à l'échec même de notre prédication, de notre catéchèse, de notre transmission, de notre communication, de notre diaconie, dans un monde qui n'est pas plus prêt que celui d'hier à recevoir l'Évangile. C'est bien pourquoi la tâche du semeur engendre souvent l'inquiétude et le pessimisme, d'autant que pendant longtemps, rien ne sort de terre, rien ne fait signe. Durant ce temps des maturations silencieuses, il faut accepter d'être dans la patience et dans l'attente, être dans le non-savoir, seulement dans la confiance, s'inscrire dans la durée, avoir foi en demain. Alors là encore, voyez à quel point cette parabole du semeur interroge notre rapport au temps dans notre société, dont l'excellent journal Réforme s'est fait un écho il y a quelques semaines. Nous vivons en effet dans un présent de plus en plus présent et de plus en plus pressé, qui sape la confiance en demain. L'avenir est perçu aujourd'hui comme inquiétant, imprévisible, indéchiffrable. Alors, le seul investissement qui vaille est dans le maintenant et dans le tout de suite. Parfois même, dans la tyrannie de l'urgence, nous voudrions moissonner avant d'avoir semé. Car en fait, pour l'individu moderne, ce qui compte, c'est ce qu'il réalise totalement lui-même. Porté par l'illusion de sa toute-puissance et de sa toute-maîtrise, il veut toujours achever ce qu'il a entrepris, oubliant que le verbe « achever » signifie aussi « faire mourir ». Achever, c'est tuer l'espérance. C'est dénier à l'humain la capacité d'envisager de nouveaux possibles, d'imaginer de l'autre dans sa vie, de susciter du neuf, pour tout dire, de ressusciter. Le grand homme de théâtre et homme d'État, Vaclav Havel, a dit un jour que dans nos sociétés, on ne savait plus attendre. Mais c'est peut-être parce qu'au fond, nous n'attendons plus rien. Alors pour retrouver le goût de l'espérance, sans doute faut-il résister comme le semeur aux impératifs de réalisation immédiate et de rentabilité, cette culture du résultat qui souvent nous épuise et nous fait perdre courage, y compris parfois dans nos engagements ecclésiaux et diaconaux. La parabole ici nous rappelle l'essentiel qui nous revient, semer. Semer la parole fragile et féconde. Semer, sans forcément voir les fruits, mais semer avec confiance, puisque nous croyons que la moisson et nos vies sont dans les mains de Dieu. C'est pourquoi, comme le montre la parabole, aucun terrain ne doit être tenu à l'écart des semailles. Même ceux que nous pourrions considérer comme arides et secs, même ceux qui nous semblent si peu préparés à l'accueillir. Et là encore, vous le savez sans doute très bien, à l'entraide, c'est souvent au cœur des fragilités et des blessures de vie meurtrie que l'espérance peut s'engouffrer. Nous sommes ainsi conduits au troisième et dernier élément de surprise de ce texte, mais qui est, au fond, en tout cas pour moi, peut-être le plus dérangeant. Au point d'ailleurs que les évangiles synoptiques, lorsqu'ils se sont constitués et écrits, donnent l'impression d'avoir voulu chercher à le gommer un peu, ce caractère étonnant, en ajoutant ce commentaire bien pensant et un peu moralisateur pour exhorter l'Église primitive et chaque chrétien à être un bon terrain, une bonne terre, bien labourée, bien irriguée, qui se justifie par ses bons résultats. Comme s'il fallait donner un peu de cohérence au comportement incohérent, en apparence, de ce semeur. En effet, si on s'en tient strictement au texte de la parabole, il est vraiment étonnant, ce semeur. Il sème à tour de bras, il sème n'importe où. Voilà un chemin, il sème. Voilà des pierres, il sème. Voilà des épines, il sème. On en vient presque à s'étonner qu'il en soit quand même tombé un petit peu dans la bonne terre. Curieux, ce semeur, et certainement pas aveugle. Il a vu tous ces obstacles. Il sait donc bien qu'à vue humaine, le grain ne donnera pas de bonne récolte. Et pourtant, il sème. Ainsi, chers amis, nos vies sont faites de ces terrains les plus divers, parfois les plus réfractaires. Et pourtant, Dieu sème. Eh bien, je crois que c'est dans ce pourtant que réside tout l'amour de Dieu. Pourtant et partout, il sème sans compter. Même dans nos parts d'ombre, semeur admirable qui ne désespère d'aucun terrain et ne mesure ni sa peine ni la graine, de peur d'oublier un tout petit coin de nos vies. Décidément, quand on sème, on ne compte pas, parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors oui, J'aime ce semeur, ce Dieu semeur qui accepte de gaspiller ainsi la semence. Un Dieu pour tous qui refuse de limiter la semence juste au bon terrain parce qu'il espère en chaque être humain. Un semeur qui dépense sans compter pour que chacun puisse se tourner vers lui et répondre à son appel tel qu'il est, avec ses fragilités et ses blessures secrètes, ses incertitudes et ses questions, ses découragements et ses doutes, et même parfois ses révoltes. Quand la vie est trop dure et le malheur trop grand, j'aime, oui j'aime que Dieu soit ce semeur qui n'attend pas que je lui offre la terre bien labourée de mes belles dispositions, le sol fertile de mes mérites et de mes bonnes œuvres, mais qui ensemence d'espérance ma vie telle qu'elle est, même là où c'est difficile, même là où c'est sans espoir à vue humaine. Oui, j'aime que Dieu ne désespère pas de moi, ni de nous, ni de notre Église, ni de notre monde, et qu'il enfouit sa perte, sa parole de grâce, dans les endroits les plus secrets et les plus arides de nos existences. J'aime qu'il puisse faire de chacune et de chacun de nous un semeur d'espérance, un semeur qui sort pour semer, porté par la joie et par la force des commencements, un semeur patient et confiant, un semeur tourné vers demain, un semeur tout terrain qui, à son tour, aimera et sèmera sans compter. Oui, voici que le semeur est sorti pour semer. Et déjà, il nous attend. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 193, les strophes 1, 2 et 3.
Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, vous venez de l'entendre, le semeur nous attend et nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil de l'entraide. Je vous invite à la prière. Prions. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, et solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es venu en serviteur pour réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Inlassablement, tu viens semer au cœur de nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit de sainteté. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi, de témoigner et de servir. Oui, nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Oui, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Pour former le Conseil de l'entraide, l'Assemblée générale, au mois de mars, a réélu Gilles Deveau, que j'appelle maintenant, Dorothée Gruel, Christophe Mallet, Fleurette Razoaza-Namavo et Geneviève Rive. L'Assemblée générale a également élu Florence Prochian, Sophie Saunu et Laurent Schmitt. Le Conseil a confié la charge de président à Gilles Deveau, de trésorier à Christophe Mallet et de secrétaire à Fleurette Razoaza-Namavo. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de notre Église. Ce ministère, vous, qui vous est confié, vous l'exercerez en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsable de vos frères et de vos sœurs. Vous vous efforcerez de les encourager par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos, vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Vous unirez vos efforts pour rendre concrète, immédiate, l'exercice de cette diaconie qui vous est confiée. Vous mettrez en œuvre des actions diverses pour accueillir, soulager, accompagner les personnes en difficulté. Vous aiderez tous les membres de l'Église à prendre conscience des souffrances et des injustices qui nous entourent, afin qu'ils puissent agir pour plus de fraternité. Par votre discernement, par votre engagement, vous manifesterez les signes de la justice, de l'amour et de la paix donnés en Jésus-Christ. Vous affirmerez la force libératrice de la parole de Dieu, vous proclamerez l'espérance et vous œuvrerez en esprit de service. Si c'est bien ce que vous voulez, je vous invite à répéter après moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Frères et sœurs, vous venez de recevoir ces engagements des membres du Conseil de l'Entraide. Je vous invite maintenant à vous lever en signe de solidarité et d'assentiment. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs de ce Conseil de l'Entraide. Nous les soutiendrons. Si c'est bien là ce que vous voulez, je vous invite, frères et sœurs, à répéter après moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Pour l'imposition des mains, j'invite maintenant le pasteur Michel Bertrand, le major Denise Brigou, Raphaël Georgi, Laurence Gilquin, Juliette Lauvergeat, Samuel Macaigne, Odile Mallet et Marie-France Pessis. Et Christian Huro, pardon, je vous avais oublié, Christian. Je vous invite à la prière. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme diacres dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Église du Christ, réjouis-toi, oui, sois dans l'allégresse pour tous les ministères que Dieu te donne. Vous, membres du Conseil, recevez-en l'assurance. Vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile et à la diaconie de l'Église. Le Seigneur est fidèle. Frères et sœurs, je vous invite à chanter au psaume 36, les strophes 1 et 2, pendant que les impositionnaires vont donner l'accolade aux membres du Conseil de l'Entraide. Donc le psaume 36, les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le temps des annonces. C'est Juliette qui va faire les annonces.
Bonjour à tous. Alors un grand merci d'abord à Michel Bertrand pour sa prédication qu'il a semée de manière inspirante pour nous ce matin. Merci à David Cassan qui nous accompagne à l'orgue. À la sortie du culte, vous avez peut-être vu en arrivant, nos éclaireuses koalas préparent une vente de gâteaux, donc gardez un peu de monnaie pour elles. Et comme annoncé par Richard Cadou, nous avons un repas malgache, Salmono, en face. Si vous ne vous êtes pas inscrit, il reste peut-être quelques places, donc n'hésitez pas à y aller. Demain, lundi 4 juin, grec biblique pour progressants, avec Aurore Mériot, de 19h30 à 21h, salle Roberti. Mercredi 6 juin, c'est le grec biblique pour avancer, avec Edith Lounès, de 14h30 à 17h30, salle Mono. Jeudi 7 juin, répétition du chœur avec Fabien Aubé, accompagné d'Alexandre Korovitch, de 19h30 à 22h, salle Mono. Samedi 9 juin, hébreu biblique découverte avec le pasteur Gilles Castelnau, de 10h à 11h, exceptionnellement dans la grande sacristie. Et puis, samedi toujours, de 18h à 19h, parole et silence, un moment de partage autour de chants, de textes, de prières et de recueillement par le pasteur Richard Cadou au 4e étage de la maison presbytérale. Dimanche prochain, 10 juin, à 9h30, venez chanter avec le chœur pour préparer les cantiques et les psaumes du culte à partir de 9h30 avec Fabien Aubé. Le culte sera présidé par Richard Cadou, il y aura éducation biblique et de nouveau des gâteaux par les éclaireurs Cobra. Michel Bertrand nous a dit qu'il était important de semer. On peut semer également en faisant l'offrande. Donc c'est maintenant le moment de l'offrande. Et pour rappel, vous avez pour toute offrande nominative 66% de réduction d'impôt. Donc n'hésitez pas à donner généreusement. Merci beaucoup. Un petit mot complémentaire, vous savez que le pasteur Richard Cadou nous quitte avec un culte de départ le 24 juin. Il y a dès à présent le livre d'or qui est disponible pour lui au stand de librairie. Merci.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Ô notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, nous t'en prions. Envoie ton Esprit pour que chacun d'entre nous accomplisse fidèlement le ministère que tu lui as confié. Que chacun d'entre nous réponde à la vocation qui est la sienne. Oui, éclaire-nous par ta lumière, donne-nous un cœur humble, paisible et simple. Mets en nous une intelligence qui comprenne tes desseins et une volonté qui se soumette à la tienne. Garde-nous dans l'unité et dans la communion fraternelle, afin que nous sachions nous écouter un peu les uns les autres et nous aider mutuellement. Veille sur nos paroles et bénis nos travaux. Solidaires des hommes de bonne volonté, nous te confions maintenant les espoirs et les inquiétudes, les attentes et les impatiences, les joies et les peines de notre monde. Et ensemble, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de nos yeux, il dépose sa lumière. Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.